Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité vous rencontrer devant les Français qui nous écoutent et nous regardent pour tirer les conclusions du grand débat national et proposer au pays les orientations du nouvel acte qu'appelle l'attente de nos concitoyens, nouvel acte de notre République. Que s'est-il passé au fond depuis le mois d'octobre dernier dans notre pays ? Un mouvement inédit, le mouvement des Gilets jaunes, qui a dit sa colère, son inquiétude, qui a dit aussi son impatience que les choses changent plus vite, plus radicalement, et que le peuple français puisse avoir sa part de progrès dans un monde incertain et où, il faut bien le dire, il a eu le sentiment, durant plusieurs années, de plutôt subir des reculs. Ce mouvement s'est ensuite progressivement transformé, tiraillé entre les injonctions contradictoires, la démocratie absolue et permanente d'un côté ou la fascination autoritaire de l'autre, le plus de services publics tout à fait légitimes et le moins d'impôts tout aussi légitimes mais difficilement compatibles. Et ce mouvement a ensuite été récupéré, nous l'avons tous vu, par les violences de la société. L'antisémitisme, l'homophobie, les attaques contre les institutions, les journalistes parfois, les forces de l'ordre. Aujourd'hui, l'ordre public doit revenir avant tout, et avec lui l'indispensable concorde. Mais je ne veux pas que les dérives de quelques-uns occultent les justes revendications portées à l'origine de ce mouvement et profondément soutenues. C'est pour cela que j'ai apporté une première réponse dès le 10 décembre dernier. Une réponse d'ampleur, parce qu'elle me paraissait juste et qu'elle était cohérente avec les orientations que nous avions d'ailleurs retenues au début du quinquennat. Donner plus de pouvoir d'achat, mais plus vite, aux classes moyennes et à celles et ceux qui travaillent. C'est aussi pour cela que j'ai voulu ce grand débat national, exercice inédit dans les démocraties contemporaines, dans lequel je me suis personnellement engagé aux côtés des maires et qui a permis à plusieurs millions de nos concitoyens de participer. Et je dois dire la grande fierté qui est la mienne d'avoir vu durant ces mois nos concitoyens prendre part à ces débats, dire leur part de vérité, proposer, réfléchir. Et j'ai moi-même beaucoup appris de notre pays aux côtés des maires sur la fonction qui est également la mienne. Durant ces mois, j'ai beaucoup appris et cette fierté que j'évoquais m'a convaincu d'une chose. Nous sommes, avant toute chose, les enfants des Lumières. Et c'est de ce débat, de ces délibérations, de cette capacité à dire et contredire, mais dans le respect de l'autre, que peuvent naître les bonnes solutions pour le pays, et en aucun cas dans l'obscurantisme ou le complotisme. On ne bâtit pas sur la haine de soi, la jalousie de l'autre, mais bien plus dans la juste compréhension de ce que nous sommes et des défis qui sont devant nous. Alors qu'a dit ce mouvement et qu'est-ce que j'ai saisi de ce grand débat ? D'abord, on l'a tous entendu, un profond sentiment d'injustice. Injustice fiscale, injustice territoriale, injustice sociale. Ce sentiment est là, il est installé, il faut lui apporter une réponse. Ensuite, un sentiment de manque de considération. Beaucoup de nos concitoyens qui ne se sentent pas respectés dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent, par nos institutions, parfois notre organisation collective, nos manières de décider, de faire. Un manque de confiance aussi dans les élites, toutes les élites, votre serviteur au premier chef, mais l'ensemble de ceux qui sont élus exercent des responsabilités, représentent, parfois même cherchent à décrypter l'actualité. Il est difficile de construire quelque chose lorsque la confiance n'est pas rétablie à l'égard de celles et ceux qui doivent être des tiers de confiance ou qui décident dans la société. Un sentiment d'abandon. Sentiment d'abandon qui se nourrit du fait que de plus en plus de vies de nos concitoyens sont comme oubliées ou inadaptées à l'organisation du monde, tel qu'il est, tel qu'il s'est fait. Nous vivons dans une société avec des politiques publiques qui ont largement été pensées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La famille a changé, la manière de travailler a changé, nos organisations ont changé, Et nous ne l'avons pas totalement vu. On a découvert, il faut bien le dire, avec beaucoup d'humilité durant ce mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui les familles monoparentales. La plupart du temps, ces femmes seules qui élèvent leurs enfants et travaillent. Très peu de choses sont faites dans la société pour elles, pour ne pas dire rien. On a vu s'exprimer les enfants victimes de harcèlement à l'école, les personnes vivant en situation de handicap, qui ont dit aussi tout ce que la société avait d'obéissance, celles et ceux qui travaillent dans les grandes villes où on a créé l'essentiel des emplois ces 20 dernières années, mais n'ont pas les moyens d'y vivre et habitent parfois à trois quarts d'heure ou une heure de route sans qu'il y ait de transport collectif. On n'avait pas non plus conçu de politique publique pour eux. Et donc, il y a comme des plis de la société qui se sont en quelque sorte révélés, des angles morts. Ces vies, un peu oubliées de nos politiques publiques, de beaucoup de nos discours, qui ont dit « moi je participe, je travaille, je vis mal, malgré ce travail. Et je veux non seulement qu'on me reconnaisse, mais qu'on apporte des solutions concrètes à ma vie. » Et évidemment, je n'oublie pas, parmi ces quelques portraits chinois que je viens de brosser, les retraités modestes, dont j'ai un moment cru moi-même que leurs protestations n'étaient pas totalement légitimes, vous me parlez de la CSG, regardez ces quelques euros par mois, mais qui vivent aujourd'hui avec l'angoisse de parfois devoir aider les générations suivantes, qui ne s'en sortent pas totalement, de devoir subvenir aux besoins de leurs propres aînés qui vivent encore et sont en dépendance, et qui voient devant eux ce que va coûter la maison de retraite, l'EHPAD, entre 1800 et 2000 euros par mois, là où leur retraite est à 1300 euros, et qu'ils ont travaillé toute leur vie. Ces cas concrets se sont dits à nous, se sont exprimés. Et on nourrit ce sentiment d'abandon. Enfin, c'est la peur des grands changements. Le climat avec son urgence, mais aussi son lot d'inquiétudes, parce qu'il faut changer des habitudes prises pour se déplacer, produire. L'immigration, le numérique, le déclassement social, le vieillissement que je viens rapidement d'évoquer. Alors, face à toutes ces inquiétudes qui se sont exprimées, ces sentiments que je voulais rassembler pour dire un peu ce que j'avais compris et entendu, est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis 2 ans ? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route ? Je crois tout le contraire. Je crois que les transformations en cours et les transformations indispensables à faire dans notre pays ne doivent pas être arrêtées, parce qu'elles répondent profondément à l'aspiration de nos concitoyens. Elles n'ont pas été suffisamment rapides à l'endroit de certains, pas suffisamment radicales, pas suffisamment humaines, je vais y revenir, mais je pense très profondément que les orientations prises durant ces 2 premières années, à bien des égards, ont été justes. Mettre l'école, le mérite, le travail au cœur de notre ambition était indispensable. Décider à investir, produire davantage pour redevenir une nation forte, en menant toutes les réformes nécessaires pour cela, était indispensable aussi pour pouvoir financer la solidarité ensuite qu'on veut pouvoir se payer. Moderniser notre économie, réduire nos déficits publics, réarticuler une vraie ambition européenne face à toutes ces menaces étaient, je le crois très profondément, de bonnes orientations. Et je crois donc que ces fondamentaux des 2 premières années doivent non seulement être préservés, poursuivis et intensifiés. Et d'ailleurs, les premiers résultats sont là. Au moment même où nous vivons cette crise, nous recréons des emplois, plus de 500 000 durant ces 2 premières années, y compris dans le secteur industriel où depuis plus de 10 ans, nous étions en train de détruire constamment des emplois en France. Les investissements repartent et continuent de repartir, et pour la première fois depuis bien longtemps, en ce moment même, notre croissance est supérieure à celle de bien de nos pays voisins. Donc les résultats commencent à être là. Alors la réponse n'est pas dans le reniement, mais je crois dans la définition plus profonde d'une nouvelle ambition, dans la réponse aux questions profondes que se pose notre pays, et que se posent d'ailleurs nombre d'autres démocraties dans le monde, qui vivent partout des crises qui se traduisent de manière différente, qui sont des crises de l'efficacité, de la représentation. D'abord, face au sentiment d'injustice, nous devons apporter une réponse qui place l'homme au cœur de notre projet, bien davantage que nous ne l'avons fait. Notre projet national doit être plus juste, plus humain, afin de rassembler et de réunir. Et face au grand changement, il nous faut retrouver, par le projet national et européen, la maîtrise de notre destin et de nos vies. Je crois que ce à quoi aspire très profondément le peuple français, c'est de comprendre pourquoi on décide les choses, qu'on puisse, en tant que gouvernant, dire à un moment « nous ne sommes pas d'accord », de ne pas tout subir ou avoir le sentiment qu'on s'adapte constamment au cours du monde. Alors ce nouveau temps, cette mandature et de notre République, je veux lui assigner un objectif simple. Redonner une espérance de progrès à chacun en demandant à chacun le meilleur de lui-même. Et c'est ainsi que nous pourrons reconstruire ensemble très profondément ce que j'appellerais l'art d'être français, qui est une manière très particulière d'être ce que nous sommes. L'art d'être français, c'est être à la fois enraciné et universel, être attaché à notre histoire, nos racines, mais embrasser l'avenir. C'est cette capacité à débattre de tout, en permanence. Et c'est très profondément décider de ne pas nous adapter au monde qui nous échappe, de ne pas céder à la loi du plus fort, mais bien de porter un projet de résistance, d'ambition, pour aujourd'hui et pour demain. Et pour ce faire, il y a 4 orientations que je voulais brosser ce soir devant vous avant de répondre à vos questions, et qui sont en quelque sorte celles sur lesquelles je veux construire cette nouvelle étape. La première orientation, c'est de changer beaucoup plus en profondeur et rapidement notre démocratie, notre organisation, notre administration. Au fond, le sentiment de beaucoup de nos concitoyens, c'est comme ça que je l'ai entendu, c'est de dire « vous nous avez demandé des changements à nous, vous, vous avez très peu changé. Vous, vous êtes toujours avec les mêmes, organisés de la même manière, on n'a rien vu bouger. » Ce n'est pas faux. Alors sur le plan démocratique, les citoyens veulent être mieux représentés, participer davantage, avoir au fond une organisation plus efficace. Là-dessus, on a vu fleurir beaucoup de débats. Je veux dire très franchement, après avoir beaucoup écouté, réfléchi, où je me situe. Je crois aux élus. Je crois aux élus de la République parce que l'élu a une légitimité, celle que lui procure l'élection. Si on se met à dire, quand il s'agit des décisions de la cité, la vie d'un citoyen est aussi importante que celle du maire, elle l'est en tant que citoyen, mais le maire est allé à l'élection, il a obtenu une légitimité. Et donc je pense qu'il faut consolider cette place de nos élus dans la République, sinon il n'y a plus de décision possible, plus d'arbitrage qui se prend. Et au premier chef, les maires, qui sont le visage, le quotidien de la République, à portée, parfois d'engueulade, si vous m'autorisez cette expression, de remerciements et d'attachements aussi, et qui sont essentiels. Je veux conforter leur rôle par un statut digne de ce nom, simplifier les règles qu'ils ont parfois subies lorsque le pouvoir, les responsabilités se sont par trop éloignées sans qu'ils l'aient choisi. Mais la démocratie représentative est aussi essentielle. Et je ne veux pas que de cette crise, le rôle du Parlement ne soit en aucun cas fragilisé. Cependant, nous pouvons l'améliorer. Nous pouvons le rendre plus représentatif, avec une part significative de proportionnel pour que toutes les familles politiques soient représentées, toutes les sensibilités, en limitant aussi le nombre de mandats dans le temps. Nous pouvons le rendre plus efficace, et je fais confiance aux assemblées, pour renforcer leur contrôle, indispensable, pour avoir aussi des procédures plus rapides, plus adaptées aux contraintes actuelles et aux attentes de nos concitoyens. L'efficacité, c'est aussi la réduction du nombre de parlementaires, comme je m'y étais engagé, et qui est beaucoup revenu dans le débat. Mais nos citoyens veulent participer davantage, au-delà de ce que je viens de dire sur les élus et notre démocratie représentative, et plusieurs questions ont émergé qu'il faut considérer. D'abord, la question du vote obligatoire, qui est souvent revenu. Je ne retiendrai pas cette option. Je ne la retiendrai pas pour deux raisons. La première, c'est que je ne crois pas qu'on réponde à la crise démocratique par la contrainte. Je ne crois pas que lorsqu'il y a de la désaffection pour une élection et du désintérêt, on y répond en rendant la chose obligatoire. On y répond en redonnant du sel à la vie démocratique. Et à cet égard, la période que nous vivons, je le crois, est une partie de la solution. Ensuite, c'est qu'une fois qu'on a mis l'obligation, quand je regarde nos voisins, il est très dur de la faire respecter. Généralement, elle n'est pas suivie. Est-ce qu'on met des amendes? C'est très dur. Alors, certains proposent de priver de leurs droits civiques ceux qui ne vont pas voter. C'est un peu étrange. En tout cas, ça éloigne encore davantage du civisme et de la vie politique ceux qui ne se rendraient pas à cette obligation. Je n'y crois pas. Ensuite, il y a la question du vote blanc. C'est une question qui, depuis longtemps, travaille notre démocratie. Elle n'est pas négligeable. Et à juste titre, les gens qui votent blanc nous disent « Je veux être entendu, je veux que ce soit pris en compte. » Est-ce qu'il faut lui donner une reconnaissance particulière ? J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi, et je ne la retiendrai pas. Je ne la retiendrai pas parce que, au fond, la crise de nos démocraties est aussi une crise d'efficacité et de capacité à prendre les décisions. Alors, on peut avoir des projets dont aucun ne nous plaît totalement à une élection. Mais on doit choisir, parfois le moindre mal ou le mieux possible. Et ce choix est important. Parce que dans les moments difficiles de la démocratie, il faut prendre des options et il faut choisir. Et je sais une chose, c'est que quand on vit une période difficile, blanc, ça ne décide pas. Blanc, c'est l'agrégation des rejets, des refus. C'est trop facile. Moi, je veux bien être le candidat du blanc. On a toutes les voix dans la période que nous vivons. Mais blanc ne résoudra aucun problème. Monsieur X, Madame Y, oui. Qu'on soit d'accord ou pas. Enfin, il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Je crois que c'est une bonne voie qui respecte la démocratie représentative, mais qui permet à 1 million de citoyens qui se rassemblent de pousser le Parlement à discuter d'un texte, ou bien d'aller au référendum. Je souhaite ensuite qu'au niveau local, on puisse renforcer le droit de pétition. Au niveau local, en définissant une forme de droit d'interpellation des élus. Au-delà d'un certain seuil qui sera à définir, les citoyens doivent pouvoir obtenir d'inscrire un sujet à l'ordre du jour d'une assemblée locale. Là aussi, je pense que c'est important et ça permet d'articuler la place légitime des élus, mais ce que les citoyens peuvent vouloir amener dans le débat public et voir pleinement reconnu. Et enfin, je souhaite que cette place de nos concitoyens dans notre démocratie ainsi revitalisée puisse aussi se faire par la réforme que nous devons conduire du Conseil économique, social et environnemental. Ce Conseil existe depuis la Constitution de 1958, et c'est une présence qui a des antériorités pour représenter la société civile. Nous en réduirons le nombre, mais à côté des grandes forces vives économiques, sociales, associatives qui y sont présentes et qui portent les grands sujets, je souhaite qu'on puisse avoir des citoyens tirés au sort qui viennent compléter cette Assemblée et qui ainsi permettra à celle-ci de représenter pleinement la société dans toute sa diversité et sa vitalité. Et je souhaite que ce Conseil de la participation citoyenne ainsi refondé puisse reprendre l'ensemble des compétences de consultation qui sont émiettées entre plusieurs comités, parfois devant lesquelles nos lois doivent passer, qui sont souvent peu claires pour nos concitoyens et qui créent beaucoup de complexité administrative. Je propose que cette réforme constitutionnelle, ainsi simplifiée, clarifiée, repensée, puisse être soumise par le gouvernement au Parlement à l'été, et je fais confiance à l'Assemblée nationale et au Sénat pour qu'elle puisse, dans les meilleurs délais, prospérer et être pleinement effective. Mais sans attendre, dès le mois de juin, nous tirerons au sort 150 citoyens pour constituer ce début de Conseil de la participation citoyenne. Ce sera organisé au CESE actuel, avant sa réforme. Et nous commencerons à innover avec ce nouveau travail qui, je crois, répond aux aspirations profondes et permet de mobiliser l'intelligence collective de manière différente. Nous devons ensuite changer de méthode d'organisation de notre République. Ce qui s'est exprimé très profondément, c'est un besoin de proximité, d'enracinement de l'action que nous devons conduire dans beaucoup de domaines. Et j'ai pleinement conscience que la politique que nous avons parfois menée a été perçue comme lointaine, parfois trop froide, venant de Paris, et donc technocratique. C'est parfois injuste, c'est parfois vrai. En tout cas, il faut le regarder en face. Et donc, je souhaite que nous puissions ouvrir un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire. Les Français ont confiance dans leurs élus locaux et ce nouvel acte de décentralisation doit porter sur des politiques de la vie quotidienne, le logement, le transport, la transition écologique, pour garantir des décisions prises au plus près du terrain. Ce nouvel acte de décentralisation devra s'appuyer sur quelques principes simples. D'abord, responsabilité, lisibilité et financement. Quand je regarde nos décentralisations passées, elles sont tout sauf claires et elles n'ont pas permis ni de faire de véritables économies, ni d'avoir une culture de la responsabilité démocratique. On a souvent transféré des bouts de compétences, avec une partie des financements qui allaient avec. L'État a gardé une partie de ses compétences, ce qui crée un imbroglio absolument terrible. Mais surtout, on n'a jamais transféré la responsabilité démocratique qui va avec. Jamais. Et donc, on a parfois transféré des compétences, mais quand les ennuis sont là, c'est toujours l'État. Ce qui est un peu simple. Et donc, une vraie république décentralisée, c'est des compétences claires qu'on transfère totalement, en supprimant les doublons, on transfère clairement les financements, mais on transfère clairement la responsabilité démocratique. Et la question que nous devons nous poser, c'est à quelle élection on vote pourquoi ? Moi, je suis convaincu que sur les sujets que j'évoquais, le logement quotidien, le transport, beaucoup de sujets de la vie quotidienne, quand on vote pour le président de la République, on ne vote pas pour cela. Quand on décide de la politique sociale de la nation, ce n'est pas au moment où on vote pour le conseil départemental. Or, aujourd'hui, ce sont des compétences du département. Vous voyez qu'il y a une perte de repères et de clarté démocratique dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc, nous devons, là-dessus, profondément refonder notre modèle, mais je souhaite qu'il puisse y avoir un geste de décentralisation extrêmement clair, et avec celui-ci, un principe de différenciation territoriale. Nous avons commencé à le pratiquer avec le gouvernement, en signant des contrats ad hoc, collectivité par collectivité, mais pour répondre aux défis de nos outre-mer, qui sont très spécifiques, pour répondre aux défis de l'insularité et de la montagne que connaît la Corse, mais que des régions comme la Normandie ou l'Occitanie vivent, qui peuvent être différentes, on doit différencier, adapter nos règles, notre organisation, trouver plus de liberté. Nous avons commencé à le faire, nous devons aller plus loin, et c'est aussi un des éléments de l'indispensable réforme constitutionnelle qui est devant nous. Cette réforme, cet acte de décentralisation devra aboutir pour le premier trimestre 2020. L'État lui-même, l'ensemble de ce qui est en quelque sorte la présence de la nation sur le terrain, doit aussi savoir s'adapter dans ce contexte. Recréer de la proximité, être accessible à tous dans tous les territoires, qu'il s'agisse des territoires ruraux, des quartiers politiques de la ville, comme des métropoles. Sur le terrain, on a besoin de fonctionnaires, de médecins, d'instituteurs, de professeurs, d'artistes, toutes celles et ceux qui font vivre la nation. J'aurai progressivement à redéfinir un nouveau pacte territorial. Et nous avons commencé à l'esquisser. Un agenda rural arrive qui permettra de l'ancrer dans notre ruralité. Mais nous devons, sur ce point, remettre de la présence de services publics, assurer l'accès aux services publics à moins de 30 minutes avec un accompagnement personnalisé pour les démarches de la vie quotidienne, assurer l'accès aux soins pour tous en luttant contre les déserts médicaux, ce qui est au cœur du projet de santé qui est en cours de discussion au Parlement, et ne plus avoir d'ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d'hôpitaux ni d'écoles, sans l'accord du maire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réorganisation, on le sait très bien. Elles sont parfois indispensables. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de disparition, comme on l'a aussi trop vécu. Et nous devons, dans le cadre de ce nouveau projet territorial également, développer les projets patrimoniaux, culturels, qui sur le terrain font vivre nombre de ces territoires, sont portés par nos artistes, nos associations, et sont au cœur de la vitalité de ces derniers, ce que vivent nos concitoyens. Nous allons aussi développer des campus connectés pour les études universitaires dans les villes moyennes, ce qui est au cœur de cette ambition territoriale. Et ce que je veux à travers ce nouveau projet pacte territorial, c'est réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural. Car ce sont des mêmes projets qu'il faut faire émerger dans ces espaces qu'on a trop longtemps divisés. Ce qui veut dire que l'État lui-même doit repenser son action sur le terrain. Je le disais, en cessant la fermeture des services publics, mais en ayant une autre approche de sa présence au territoire. Nous avons trop de monde à Paris. Et je l'ai souvent dit dans les débats, et on le perçoit, il y a trop de monde à Paris qui prend des décisions ou décide des règles, sans jamais voir les problèmes ou les gens. Et il n'y a plus assez de monde sur le terrain à régler les problèmes concrets de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos associations. Et donc je veux qu'on remette plus de fonctionnaires sur le terrain qui apportent des solutions, contrairement à la tendance depuis plusieurs décennies, et qu'on supprime plus de postes en administration centrale. Avec cela, le Premier ministre, dès le mois prochain, aura à présenter une profonde réorganisation de notre administration qui vise à donner plus de pouvoir et de responsabilité au terrain, à ceux qui sont au contact de ces réalités. Et je veux que dans chaque département, on ait maintenant une grande clarté autour du préfet, avec tous les services de l'État ainsi coordonnés, qui puissent répondre aux aspirations du territoire, des élus. Et je veux que dans chaque canton, d'ici à la fin du quinquennat, nous ayons pour tous nos concitoyens un endroit où on puisse trouver réponse aux difficultés qu'on rencontre. On a commencé à développer ces maisons de services au public. Quand je regarde ce qui se fait ailleurs, les Canadiens sont toujours très inspirants. Mais je veux qu'on mette en place quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'ils ont fait. Cette maison qui s'appellerait France Service, où dans chaque canton, en moyenne, on pourrait avoir un lieu où sont regroupés l'accueil pour le public de services de l'État, mais on propose aux collectivités locales d'y être aussi présentes et à tous les opérateurs. Parce que pour nos concitoyens, c'est devenu illisible quand ils ont un problème de savoir s'il faut aller à la CAF, à Pôle emploi, ou si c'est la préfecture, ou si c'est la mairie et la mission locale. La simplicité, c'est la vraie protection. C'est la vraie protection. Et c'est le vrai service au public. Enfin, cette transformation de ce que nous sommes, de notre organisation, suppose une réforme de notre haute fonction publique. J'ai vu que des rumeurs ces derniers temps avaient beaucoup animé les discussions sur ce sujet. Il ne s'agit pas de simplement supprimer telle ou telle chose pour en faire des symboles. Non. Le gouvernement s'est engagé dans une réforme profonde des règles de la fonction publique pour le bien des fonctionnaires. C'est une très bonne chose. Mais notre haute fonction publique pourrait être tenue à l'écart d'une modernisation indispensable. Nous lui devons beaucoup. Elle a bâti ce que nous sommes, elle a pris beaucoup de responsabilités, et je suis profondément attaché au modèle méritocratique, un élitisme républicain qui fait qu'on attire dans l'État les meilleurs pour pouvoir régler les problèmes les plus complexes. Néanmoins, des changements sont à faire. En termes de recrutement d'abord, est-ce que notre haute fonction publique ressemble à la société que nous sommes ? Non. C'est pas vrai. Elle ne lui ressemble pas. Et dans notre recrutement, notre formation, nous avons plutôt reculé durant ces dernières décennies par rapport à la situation du début de la Ve République. Ce ne sont plus des filières méritocratiques où quand on vient d'une famille d'ouvriers, de paysans, d'artisans, on accède facilement à l'élite de la République. Ça n'est plus si vrai. C'est vrai pour les grands-parents, les arrière-grands-parents. Plus si vrai pour les parents. Il faut s'interroger. Nos modes de recrutement créent un biais. Ensuite, la formation qui y est dispensée. J'ai été touché, ému en tant qu'ancien haut fonctionnaire, du soutien massif que beaucoup ont apporté. Enfin, néanmoins, les mêmes qui apportent le soutien disent depuis des décennies, c'est un moule à pensée unique, la haute fonction publique nous a parfois emmenés dans l'ornière, c'est terrible. C'est pas totalement faux non plus. Il se peut que j'ai cotisé moi-même. Si on veut que les hauts fonctionnaires soient formés différemment, il faut repenser la formation, qu'elle soit plus ouverte au monde académique, à la recherche, à l'international, qu'il y ait dans le parcours plus d'expérience de terrain. Elle soit sans doute plus ouverte aussi au monde universitaire et à ce qu'il apporte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, il y a la gestion des carrières de notre haute fonction publique. Pardon. Aujourd'hui, quand on a réussi les bons concours, on est garanti d'un succès ou d'une protection à vie. Est-ce que c'est totalement juste et est-ce que c'est totalement bénéfique ? Non. Nous devons gérer très différemment les carrières de nos hauts fonctionnaires. Avoir davantage de passerelles tout au long de la vie professionnelle pour permettre, avec des règles de déontologie extrêmement strictes, à des gens qui viennent du privé, du monde associatif, d'intégrer la haute fonction publique à différents moments. Mais on doit aussi mettre à l'épreuve les jeunes hauts fonctionnaires. Ils ne peuvent pas tout de suite accéder au poste suprême et être garantis de ne jamais les quitter. Je souhaite que nous mettions fin au grand corps. Je pense que nous avons besoin de services d'excellence, de filières d'excellence. Nous n'avons plus besoin de protection à vie. Et elles ne correspondent plus à la capacité à attirer les talents ou même à les garder. Sur ce sujet, nous mandaterons dès demain M. Thiriez qui aura à proposer au gouvernement des réformes ambitieuses sur la base de ce que je viens de dire. La deuxième orientation que je souhaite poursuivre pour les prochaines années, c'est de remettre l'humain et la justice au cœur du projet national. Nous l'avons tous entendu, et je l'évoquais, il y a un sentiment d'injustice, et d'abord d'injustice fiscale, qui est là. Alors il s'est exprimé face à l'évasion fiscale, qui est une réalité, ou l'optimisation fiscale excessive, et cette réalité d'évasion de l'impôt mine l'adhésion à l'impôt. Alors, je crois très profondément que, sur ce sujet, le gouvernement et le Parlement ont fait beaucoup de choses. Des lois très importantes, permettant de revenir sur ce qu'on appelle le verrou de Bercy, introduisant des règles de déchéance civique, dans certains cas, ont été prises. Mais il faut lever toute forme de soupçon. Aussi, vais-je confier à la Cour des comptes la mission d'évaluer précisément les sommes qui échappent à l'impôt et de proposer des mesures précises pour qu'en France, chacun respecte les mêmes règles. Si nous pouvons aller plus loin, nous le ferons sur ce sujet. J'ai aussi entendu combien la réforme de l'impôt sur la fortune menée au début du quinquennat était perçue comme un cadeau fait aux plus fortunés et comme une vraie injustice fiscale. C'est vrai, c'est exprimé partout et largement. Je veux d'abord dire que cette réforme n'a pas été la suppression de l'impôt sur la fortune. Elle a conduit à créer un impôt sur le patrimoine immobilier qui continue au même taux à taxer les détentions immobilières de nos concitoyens, mais elle a supprimé la partie du patrimoine qui était investie dans l'économie. Pour faire quoi ? Pour encourager l'investissement en direction de l'économie réelle, de la recherche, des usines, de la production. Parce que s'il n'y a pas d'investissement national, il n'y a pas d'économie, ou alors il y a une économie qui se vend aux investisseurs étrangers. Et notre pays y est ô combien sensible. Cette partie de la réforme, je juge de mon devoir de la défendre. Et elle relève du simple pragmatisme. Mais comme c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Si elle est trop large, qu'elle a des effets pervers, ils seront corrigés. Mais je le dis très clairement, c'est une réforme pour produire, pas un cadeau pour les plus fortunés. Et il me semble que la meilleure orientation pour répondre aux besoins de justice fiscale n'est pas d'augmenter les impôts de tel ou tel, non, mais plutôt de baisser les impôts du maximum de nos concitoyens, en particulier de toutes celles et ceux qui travaillent au premier chef des classes moyennes. Celles et ceux qui travaillent, qui payent l'impôt sur le revenu, ont été largement mises à contribution durant les dernières décennies. Je serai donc simple, je ne veux pas de hausse d'impôts, et je veux des baisses pour ceux qui travaillent en réduisant significativement l'impôt sur le revenu. Enfin, ces baisses, il faut expliquer comment on va les faire et comment on les finance. J'ai donc demandé au gouvernement de mettre en œuvre cette baisse d'impôt en la finançant par la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique. Nous pouvons faire aussi bien en dépensant moins et donc supprimer nombre d'organismes inutiles. Alors, nous pourrons rendre aux classes moyennes, très légitimement, ses parts de réforme. Mais les inégalités, quand je regarde la situation de notre pays, les vraies inégalités ne sont pas fiscales. Nous avons un système fiscal qui corrige déjà énormément les inégalités. Beaucoup plus que dans d'autres pays et que dans la plupart des autres pays. Nous avons un système fiscal qui met déjà largement à contribution les classes moyennes et les classes les plus aisées. Non, les vraies inégalités sont les inégalités d'origine, les inégalités de destin, les inégalités à la naissance. C'est ça les vraies inégalités françaises. Et qui ne se sont pas améliorées quant à elles. Aussi, pour traiter de ce sujet, il faut agir dès la petite enfance. Le gouvernement a commencé à apporter des réponses à travers ce qu'on a appelé le plan pauvreté. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Certains États européens nous donnent l'exemple. Regarde la Finlande faire. Elle investit massivement dans la petite enfance. Les 1000 premiers jours de vie d'un citoyen français sont décisifs. Sur le plan affectif, sur le plan cognitif, c'est là qu'on construit parfois le pire et qu'on peut bâtir le meilleur. Nous devons avoir, construire, imaginer beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'alors. Ensuite, c'est l'éducation. Donner à chacun les mêmes chances pour réussir et donner les moyens de mieux enseigner. Depuis 2 ans, c'est ce que nous avons largement commencé à faire. Là aussi, je souhaite que nous puissions aller plus loin. Et j'ai demandé au gouvernement d'y travailler, de pouvoir étendre le dédoublement des classes qui fonctionne et a déjà des très bons résultats dans les quartiers défavorisés, de l'étendre à la grande section de maternelle, mais de pouvoir dans toutes les écoles de la République, de la grande section de maternelle au CE1, avoir des classes à taille humaine, c'est-à-dire qui ne dépassent jamais 24 élèves. C'est une vraie organisation, un vrai travail, une transformation en profondeur. Mais c'est le moment où on apprend à lire, à écrire, à compter, à bien se comporter. Il est absolument essentiel. Et c'est un investissement dans nos enfants, dans lequel je crois profondément. Ensuite, par ce biais, nous devons rendre notre école plus accueillante, bienveillante à l'égard de celles et ceux qui, jusqu'alors, trop souvent, n'y avaient pas leur place. Les décrocheurs scolaires, les enfants en situation de handicap. Là aussi, beaucoup de choses ont été faites. On doit aller beaucoup plus loin. C'est indispensable, à la fois pour ce que doit être notre République, mais pour la réussite de chacun. Et puis enfin, ça suppose de mieux former les professeurs, de rendre leur carrière plus attractive, et donc, dès à présent, de progressivement rebâtir, revaloriser ce métier essentiel à la République et à la vie de la nation, qu'est l'enseignant, le professeur, le maître. La République s'est construite comme ça. Et de toute façon, en vue de la réforme des retraites que nous aurons à conduire, il faudra revoir en profondeur et revaloriser cette profession. Il faut donc que nous enclenchions cette stratégie dès à présent. Ce même investissement, nous allons le poursuivre dans l'enseignement supérieur, en développant massivement les formations professionnelles courtes, en donnant accès partout sur le territoire à une large offre de formation de premier cycle, et en construisant un système de formation supérieure tout au long de la vie, et plus simplement, de formation initiale. Par les réformes que nous avons portées, par les investissements que nous sommes en train de faire, souvent aux côtés des régions, des branches professionnelles, c'est un changement profond de la formation tout au long de la vie qui est en train d'être faite sur notre territoire. Cet investissement dans l'école, dans l'université, dans le savoir, c'est la première politique de lutte contre les injustices dans notre pays. La deuxième, c'est le travail. Le travail et le mérite. Là aussi, beaucoup de choses ont été faites, je n'y reviendrai pas. Des réformes essentielles dès le début du quinquennat, un investissement massif à l'endroit des jeunes décrocheurs comme des demandeurs d'emploi peu qualifiés, 15 milliards d'euros, avec des premiers résultats, comme je l'évoquais à l'instant. Une politique résolue d'aide aux entreprises pour les pousser à investir et à embaucher, de simplification avec encore une loi récente. Mais là aussi, nous devons aller plus loin et corriger les injustices qui existent encore, au moins à deux égards. La première, et j'ai demandé au gouvernement de le porter dès cet été, par la réforme la plus ambitieuse possible de notre système d'assurance chômage. C'est un devoir, c'est une justice, c'est bâtir les droits et devoirs pour les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et c'est un levier profond de retour à l'emploi et de lutte contre les injustices qui parfois existent dans notre pays. Ensuite, c'est en luttant de manière beaucoup plus efficace contre les injustices qui parfois existent encore dans l'accession à l'emploi. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur ces vies oubliées ou ces sentiments d'oubli que beaucoup de nos concitoyens ont exprimés. Quand on est jeune et qu'on vit dans une famille modeste et une petite ville de province, il est parfois très dur d'obtenir un contrat en apprentissage ou son premier emploi parce qu'il n'est bien souvent pas proposé dans la ville où on est. Et nous n'avons pas pensé les politiques pour accompagner ce jeune, soit pour se loger, soit pour se déplacer là où il obtient l'emploi. On doit le faire et le systématiser. Lorsqu'on est une mère seule qui élève ses enfants, que Pôle emploi vous trouve un travail, bien souvent le frein, pas bien souvent, c'est parfaitement mesuré, c'est la garde des enfants. Et là aussi, les réponses, elles sont incertaines, elles sont au gré de l'entreprise. Dans les grandes entreprises, souvent, on propose des solutions. Dans beaucoup d'autres, ça n'est pas le cas. On doit, là aussi, à Pôle emploi, comme dans les conventions que les partenaires sociaux ont à bâtir, trouver des solutions pour corriger cette injustice. Et enfin, il y a les déplacements. Lorsqu'on travaille à une heure de l'endroit où on habite, lorsqu'on propose un emploi à une heure de l'endroit où on habite, bien souvent, c'est un frein. Et c'est un frein parce qu'on doit se déplacer à ses frais et parce que ni Pôle emploi, ni l'employeur n'ont apporté des solutions concrètes pour vous accompagner au quotidien. Il faut que nous répondions à ces sujets très concrets. Et pour ce faire, je souhaite que nous travaillions de manière large. Je souhaite que les partenaires sociaux, les associations, les élus puissent travailler ensemble avec le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre et puissent proposer d'ici à septembre des solutions concrètes. Le Premier ministre réunira dans les prochains jours l'ensemble de ces parties prenantes pour cette mobilisation générale pour le travail, l'emploi et ces grandes transitions. Mais bien entendu, il faut aussi, si on veut corriger ces injustices, que le travail paye. C'est ce qui est attendu, et nous l'avons beaucoup entendu. Là-dessus, nous avons aussi fait beaucoup. Les baisses de cotisations, la défiscalisation des heures supplémentaires, la prime d'activité, largement augmentée. Il nous faut aller plus loin, avec les baisses d'impôts sur le revenu que j'évoquais un instant, avec aussi une meilleure association des salariés aux résultats de l'entreprise, par la réforme de l'intéressement et de la participation qui vient d'être conduite, par la répétition cette année de la prime exceptionnelle sans charge ni impôt décidée l'année dernière dans le cadre de l'intéressement des entreprises si elles décident d'apporter 1 000 euros de plus. C'est aussi par le revenu universel d'activité que nous devons créer dans les prochains mois pour tourner vraiment nos prestations sociales vers l'incitation à la reprise d'un emploi. Puis dire que le travail paye, c'est aussi dire que le travail qui a été fait doit payer. Et là-dessus, je dois dire que les décisions que nous avons prises à l'automne, non seulement ont été mal comprises, elles ont été bien comprises, mais mal vécues, elles ont été vues comme injustes, et elles doivent donc être corrigées. C'est pourquoi au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2000 euros, et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelques retraites que ce soit à partir de l'année 2021. Je pense qu'il faut rebâtir cette clarté, cette lisibilité pour nos retraités. La troisième orientation que je souhaite donner, c'est face aux peurs que j'évoquais tout à l'heure, d'assumer la clarté, la force d'un investissement dans les grandes transitions pour bâtir la confiance. Nous sommes face à des défis, des grands changements, et ils suscitent de la crainte parce que nous sommes comme amigués. On prend beaucoup de décisions, mais elles ne sont pas suffisamment lisibles. La première de ces transitions, la plus urgente, la plus impérieuse, c'est évidemment le climat. Le climat doit être au cœur du projet national et européen. L'état d'urgence climatique, il est là. Notre jeunesse nous le dit à chaque instant. Et nos concitoyens veulent agir. Ils agissent déjà au quotidien. Ils veulent qu'on les aide à aller plus loin, qu'on les accompagne, qu'on les aide à trouver des solutions concrètes. Mais il y a une conscience citoyenne sur ces sujets qui s'est profondément transformée ces dernières années, qui va beaucoup plus vite que nombre de politiques publiques. Alors, beaucoup a été fait ces deux dernières années, et je pourrais y revenir en répondant à vos questions. Dès la semaine prochaine, nous irons plus loin en matière de politique énergétique, puis dans les semaines à venir, en matière d'économie circulaire, pour lutter contre toutes les formes de gaspillage. Mais je veux qu'on puisse changer plus fortement de méthode pour répondre plus concrètement et de manière plus radicale aux attentes. Changer de méthode, c'est d'abord utiliser davantage l'intelligence collective sur ce sujet. On a beaucoup de solutions, je l'ai souvent dit, mais elles sont souvent trop complexes pour nos concitoyens, pas utilisées, peu connues, peu adaptées. Qu'il s'agisse des aides pour changer la chaudière, pour changer de véhicule, c'est en train de s'améliorer, mais enfin, il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi la convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort dès le mois de juin aura pour première mission de travailler sur ce sujet, de redessiner toutes les mesures concrètes d'aide aux citoyens sur la transition climatique dans le domaine des transports, de la rénovation des logements, qu'il s'agisse de l'isolation ou du chauffage, pour les rendre plus efficaces, de définir, si besoin était, d'autres mesures incitatives ou contraignantes, et, si besoin était, de définir aussi des ressources supplémentaires et de proposer des financements pour ce faire. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Puis le deuxième changement de méthode, c'est que je veux que nous mettions en place un conseil de défense écologique qui réunira le Premier ministre, les principaux ministres chargés de cette transition, les grands opérateurs de l'État, que je présiderai de manière régulière pour à la fois prendre les choix stratégiques et mettre au cœur de toutes nos politiques cette urgence climatique et m'assurer du suivi dans tous les champs ministériels lorsqu'une orientation est prise. Enfin, la réussite de cette transition, elle passe par notre ambition européenne, c'est-à-dire notre capacité à défendre au niveau européen, enfin, à obtenir un prix minimum du carbone, une taxe carbone aux frontières et une finance verte plus ambitieuse. Là aussi, je pourrais y revenir si vous avez des questions. Mais au-delà du sujet climatique, sur toutes les grandes transformations que j'évoquais, au fond, il nous faut bâtir, et c'est la tâche que j'assigne au gouvernement, un agenda 2025 pour donner de la visibilité à chacun. Depuis 2 ans, énormément de choses ont été faites. Pour notre agriculture, après des états généraux nourris, et pour avoir une stratégie alimentaire et agricole, pour définir notre ambition en matière numérique ou d'intelligence artificielle, pour réindustrialiser notre pays. Mais parfois, ces stratégies, parce qu'elles se multiplient, sont devenues illisibles pour beaucoup de nos concitoyens. Nos artisans, nos agriculteurs, nos industriels, nos entrepreneurs ont besoin d'y voir clair, et l'esprit français a besoin que tout ça soit ramassé dans une forme de stratégie collective de la nation. Et nous avons besoin de, je crois, bâtir une ambition où à 2025, on se donne des objectifs clairs et on mobilise en fonction ses moyens. Face au vieillissement, nous devons rebâtir un système de retraite juste, par points. C'est l'engagement que j'ai pris durant la campagne présidentielle. C'est ce à quoi travaille auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Jean-Paul Delevoye, depuis le début du quinquennat. Cette refondation profonde, elle sera présentée à l'été. Elle se fera sur plusieurs années. Mais c'est une transformation radicale qui doit remettre de la confiance, de la justice, de l'efficacité dans notre système de retraite. Ensuite, face au grand âge, nous devons là aussi assumer, donner de la visibilité. Depuis des années, on fait comme semblant que ça n'existe pas totalement. Il y a près 1,5 million de nos concitoyens qui sont en situation de dépendance, ce qui est une charge énorme pour leur famille. C'est un système qui est peu structuré, où on a du mal à recruter parce que les emplois sont difficiles et mal payés. Aussi, finaliserons-nous pour cet automne une stratégie, c'est-à-dire la définition des moyens publics qu'on met pour financer ce nouveau risque, de la réorganisation d'une filière qui va permettre de créer des emplois peu qualifiés et qualifiés, de toute une filière industrielle qui va avec, et de la réduction du reste à charge pour les familles, avec une ambition qu'on doit se donner et qui montera progressivement en charge pour qu'à horizon 2025, cette politique soit pleinement déployée. Et face au numérique, au changement climatique, à tout ce qu'on a commencé à faire, on a besoin de bâtir un pacte productif permettant de viser en 2025 le plein emploi. C'est à notre portée, complètement. Et pour cela, il nous faut un plan clair, produire, se déplacer, se nourrir, se soigner, avec des objectifs en matière d'investissement dans notre recherche, publique et privée, des priorités technologiques claires, au niveau français comme au niveau européen. Et donc, à l'automne, nous devons finaliser ce nouveau pacte et bâtir cette nouvelle stratégie. Je crois que nos concitoyens, dans tous les secteurs, ont besoin de cet agenda des transitions qui donnera de la clarté avec des objectifs, des normes, des accompagnements financiers et une mobilisation des acteurs publics et privés qui va avec. Enfin, la quatrième orientation que je souhaite donner aux années qui viennent pour faire face à ce doute, cette colère que nous voyons dans notre société et pour retrouver l'indispensable contrôle que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi en quelque sorte de savoir défendre, réaffirmer les permanences du projet français, de ce qui est la trame de notre nation. Il y a beaucoup de changements auxquels nos concitoyens sont confrontés. Il y a beaucoup de transformations que nous sommes en train de faire, parfois qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Et donc il faut aussi savoir dire ce qu'on veut préserver, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut consolider dans une nation. Sinon, je l'ai bien senti, nos concitoyens ont l'impression que, en quelque sorte, tout est cul par-dessus tête et que plus rien ne tient. Cet art d'être français que j'évoquais, c'est un attachement particulier à notre langue, à notre culture et à quelques permanences. La famille d'abord. Je veux que dans les prochains temps, nous puissions redéfinir une véritable ambition et la force d'une politique familiale pour accompagner nos familles qui sont profondément transformées ces dernières années, qui n'ont pas le visage des familles françaises d'il y a 20 ans, mais qu'on doit accompagner pour retrouver une dynamique de notre natalité qui commençait à baisser ces derniers temps, et aussi pour accompagner, bien mieux qu'on ne le fait, des situations familiales particulières. Je veux juste en citer deux. Ces fameuses familles monoparentales, souvent ces mères vivant seules. Je veux que nous mettions en place, de manière très rapide, un système où on donnera la prérogative de puissance publique à la caisse d'allocation familiale pour qu'elle puisse aller prélever directement les pensions alimentaires dues quand elles ne sont pas versées. On ne peut pas faire reposer sur les mères seules qui élèvent leurs enfants et, ce faisant, qui construisent la République de demain, l'incivisme de leurs anciens conjoints. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ensuite, je veux ici parler des aidants familiaux. Parce qu'il y a des millions de nos concitoyens qui sont là aussi comme oubliés. Ce sont celles et ceux, et là aussi ce sont souvent les femmes, qui ont mis entre parenthèses ou sacrifié leur vie professionnelle pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap, d'un proche, une personne de la famille devenue dépendante. Nous devons d'abord les reconnaître, les nommer, mais aussi dans nos politiques publiques, leur bâtir une place. Dans notre réforme des retraites, leur construire des droits. C'est indispensable. Ensuite, une des permanences à laquelle je crois très profondément et qu'il faut même raviver, c'est l'engagement. Nous ne sommes pas, nous Français, une société d'individus. Nous sommes une nation de citoyens. Ça veut dire des solidarités particulières, ça veut dire un engagement dans la société, qui fait d'ailleurs que parfois quand tout a disparu, quelque chose est encore là qui tient. Je crois dans notre tissu associatif, il joue un rôle formidable, dans notre ruralité comme dans les quartiers les plus en difficulté. Je veux que le gouvernement bâtisse une politique beaucoup plus ambitieuse pour accompagner nos associations, en particulier les plus petites associations, dans le travail formidable qu'elles font. Puis l'engagement, c'est le service national universel. Je l'ai voulu, il est en train de commencer. C'est la matrice indispensable au cœur de notre école d'abord, mais qui va irriguer des vocations, l'engagement soit vers le service civique, soit vers le bénévolat, vers ce qui fait très profondément cette nation de citoyens que j'évoquais. Et je souhaite qu'on accélère le déploiement de cette initiative. Elle est indispensable et notre nation en a besoin. Ensuite, une de ces permanences, c'est la laïcité. J'avais posé la question aux Français. Elle est revenue dans quelques débats. Moi, j'en ai entendu à plusieurs reprises parler. La laïcité, c'est la possibilité de croire en Dieu ou de ne pas y croire, de pouvoir vivre ensemble dans la concorde, le respect, et de respecter absolument les règles de la République. De n'être jamais ennuyé parce que l'on croit, mais de ne jamais imposer dans le champ de la société sa religion ou déroger aux règles de la République pour ce faire. À ce titre, la loi de 1905 est notre pilier. Elle est pertinente, elle est le fruit de bataille, elle doit être réaffirmée et pleinement appliquée. Et je le dis ici avec force. Et d'ailleurs, nous avons renforcé son application ces derniers temps. Nous l'avons renforcée en fermant des écoles lorsqu'elles ne respectaient pas les lois de la République, en fermant davantage d'associations ou d'établissements culturels ou culturels lorsqu'ils ne respectaient pas les règles de la République, au titre même de ce principe ou de l'ordre public ou de la lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas nous masquer. Quand on parle de laïcité, on ne parle pas vraiment de laïcité. On parle du communautarisme qui s'est installé dans certains quartiers de la République. On parle d'une sécession qui s'est parfois sournoisement installée parce que la République avait déserté ou n'avait pas tenu ses promesses. On parle de gens qui, au nom d'une religion, poursuivent un projet politique, celui d'un islam politique, qui veut faire sécession avec notre République. Et là-dessus, j'ai demandé au gouvernement d'être intraitable. Nous avons commencé à le faire avec une politique ambitieuse de reconquête républicaine dans plusieurs quartiers. Je souhaite que nous allions plus loin, en renforçant le contrôle sur les financements venant de l'étranger, en étant beaucoup plus durs à l'égard de toutes les formes de cet islamisme politique, de ce communautarisme, de cette sécession au sein de notre République. Parce que c'est une menace sur la capacité à tenir la nation ensemble. Enfin, une nation, elle se tient aussi par ses limites et ses frontières. Je crois très profondément dans un patriotisme ouvert, dans une France qui rayonne à l'international, qui est conquérante. Mais pour être ouvert, il faut avoir des limites. Pour accueillir, il faut avoir une maison. Donc il faut des frontières. Il faut qu'elles soient respectées, il faut des règles. Et aujourd'hui, force est de constater que les choses ne tiennent pas comme elles devraient. D'abord, au niveau européen, nous avons décidé d'avoir des frontières communes, ces fameux espaces Schengen, avec les règles des accords de Dublin. Cela ne marche plus. Et pour moi, c'est le deuxième grand combat européen avec le climat. C'est le combat en matière de migration. Nous devons profondément refonder notre politique de développement et notre politique migratoire. L'Europe à laquelle je crois, l'Europe souveraine, forte, c'est une Europe qui repense une ambition de coopération, de développement à l'égard de l'Afrique et de toutes celles et ceux qui en ont besoin pour éviter les migrations subies. Mais c'est aussi une Europe qui tient ses frontières, qui les protège. C'est une Europe qui a un droit d'asile refondé et commun, et où la responsabilité va avec la solidarité. C'est sur ces bases qu'on doit refonder Schengen. Quitte à ce que ce soit un Schengen avec moins d'États. Je ne veux plus avoir dans l'espace Schengen des États qui vous disent « J'en suis quand c'est pour la liberté de circulation, mais moi je ne veux pas en être quand il s'agit de répartir la charge. Pas de solidarité chez moi. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Je ne veux plus non plus des gens qui ne veulent pas tenir la frontière commune et sont dans le laxisme. Cette refondation est indispensable. De même qu'au niveau national, nous avons commencé à mener beaucoup de réformes et le gouvernement a fait un très gros travail sur ce point, mais nous sommes aujourd'hui confrontés à des détournements très profonds du regroupement familial comme des migrations liées à l'asile. Je crois très profondément à l'asile. C'est un devoir, c'est dans notre Constitution. Mais pour bien accueillir ceux qui y ont droit, on doit lutter plus efficacement contre ceux qui en abusent, contre les filières de passeurs qui utilisent ce droit. Et donc poursuivre le travail qui a été commencé en la matière, mais avoir aussi une politique d'accueil, d'intégration de celles et ceux qui ont droit à l'asile ou qui veulent rejoindre la vie de la nation. Et c'est pour ça que ce contrôle, cette reprise en main, doit aussi passer par des nouveaux choix que j'ai demandé au gouvernement en la matière. Et je souhaite que nous puissions instaurer chaque année au Parlement un débat sur la politique migratoire. Je pense que c'est une bonne discipline et ce sera une bonne règle nouvelle. Voilà, au fond, ce qu'il nous faut faire, c'est rebâtir un patriotisme inclusif où chacun prend sa part, où l'intérêt général français et européen est au fond réaffirmé, mais n'est pas simplement l'addition des intérêts particuliers. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais ici d'abord vous dire, je crois que nous devons absolument continuer de transformer le pays, car les résultats sont là. Mais la nouvelle étape, le nouvel acte passe à mes yeux par les quatre orientations que je viens d'évoquer. Et c'est cela, ce que je demande au gouvernement, aux assemblées, aux partenaires sociaux, aux élus, de replacer l'humain au centre, de rebâtir une nation de citoyens libres dans une Europe plus forte. Parce que je crois que c'est ainsi que nous pourrons véritablement retrouver cet art si particulier d'être français auquel nous sommes attachés. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais vous remercier pour cette conférence de presse et cet échange. Il y en aura d'autres, je vous rassure, elles n'attendront pas 2 ans. Et parce que c'est aussi conforme à cet aggiornamento que je souhaite, je crois très profondément que ce que nous sommes en train de faire et nous devons faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir ce nouvel acte que j'évoquais. Cette réhumanisation, ce réenracinement d'un projet de transformation profond, c'est celui que je veux que nous réussissions maintenant avec le gouvernement, les partenaires sociaux, l'ensemble des élus. J'y donnerai toute mon énergie et donc j'y reviendrai souvent avec vous. Parce que je crois très profondément que ce que j'ai évoqué à plusieurs reprises, cet art un peu particulier d'être français, c'est ce dont notre pays a besoin et qui est une part de la réponse à la boule au ventre du matin. Je crois au symbole et à l'esprit du temps. Ce qui s'est passé la semaine dernière est que notre pays a vécu, et ces pages se retournent toujours vite dans l'actualité qu'on traverse, a dit quelque chose de la très grande spiritualité, de l'esprit d'engagement de notre pays, de sa capacité à répondre, se mobiliser, espérer et vouloir rebâtir. Et je crois que ce qui s'est vu s'est senti dans ce moment-là. C'est la part de vérité de cet art d'être français. C'est la fin de l'esprit de division. C'est les discussions permanentes sur beaucoup de sujets légitimes. Mais c'est la volonté de bâtir ensemble profondément, résolument, ce modèle humain et français. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.